Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez pendant une heure, nous allons découvrir des patronnes et des patrons qui se retroussent les manches pour traverser la crise. Des acteurs de la société qui imaginent déjà le monde de demain. Ici c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. C'est la journée mondiale de l'eau, le leader mondial de l'eau potable est français, oui, il s'appelle Suez. Alors, quelle est la qualité de l'eau potable en France? Comment innover pour limiter notre consommation? On en parle jusqu'à 14h avec le patron de Suez, Bertrand Camus.
À la une, comment économiser de l'eau? Tiens, quand on prend sa douche, eh bien, on a trouvé la solution avec Inman, une douche connectée qui nous permet de programmer l'eau exactement à la bonne température. Comme ça, rien n'est gâché. Le cofondateur de cette start-up et notre invité.
Les égouts de Paris sont indispensables pour la récupération des eaux usées. Ils ont été créés par le baron Haussmann en 1850. Les égouts de Paris, ce sera notre saga du jour.
Chaque jour dans la France bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Le pitch du jour, Green Mum Box, c'est pour les futures mamans. Et nous écouterons la fondatrice nous parler de son idée à 13h45.
Et puis demain au travail, nous passerons un coup de fil au responsable du développement des ressources humaines du groupe Manutan. On utilise l'intelligence artificielle pour manager au mieux possible. On en parle à 13h50.
Eh bien oui, c'est ça, la France bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Bien sûr qu'elle bouge et qu'elle se mouille aujourd'hui, cette France bouge, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Comment prendre soin de ce bien commun? Comment moins gaspiller? On en parle avec notre témoin du jour.
Bonjour Bertrand Camus.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.
Merci pour l'invitation.
Vous êtes le directeur général de Suez, numéro 2 de l'eau en France, leader mondial dans la distribution d'eau potable, 90 000 salariés dans le monde, dont 30 000 en France. C'est donc la journée mondiale de l'eau aujourd'hui. Alors, hormis la bataille avec Veolia, dont on parlera tout à l'heure, comment ça va chez Suez, Bertrand Camus?
Suez est un groupe qui est dédié à deux métiers, hein, la distribution d'eau, le traitement de l'eau, le recyclage et la valorisation des déchets. Et nous sommes un acteur essentiel de ces métiers. Nous voyons des besoins partout dans le monde. Hein. Je pense que vous connaissez les objectifs de développement durable, hein, des Nations Unies, et qui avaient fixé deux objectifs qui étaient donner l'accès à l'eau potable à l'ensemble de la population mondiale. On n'est pas loin, hein, ça a bien avancé. Par contre, il reste un déficit très important sur le domaine de l'assainissement. Si on revient au niveau du territoire national, donc tout le monde a accès à de l'eau potable.
Nous sommes des privilégiés.
Ah, clairement, par rapport à la situation mondiale, nous sommes des privilégiés avec une eau de bonne qualité, excellente. Hein, je crois que c'est le produit alimentaire le plus contrôlé et sur lequel, au-delà des aspects de qualité et de sécurité, aujourd'hui nous travaillons sur beaucoup d'innovations pour continuer à améliorer les qualités de cette eau.
Quand vous dites que la qualité de l'eau en France est excellente, ça veut dire quoi par rapport aux autres pays? On est là encore numéro 1 mondial, numéro 2, numéro 3. En quoi cette eau est vraiment excellente en France et en quoi peut-on en être sûr?
Aujourd'hui, nous sommes au standard OCDE, en fait. Hein, c'est la qualité de l'eau en France, elle est du même niveau que dans l'ensemble des pays européens, au Japon, aux États-Unis. C'est vraiment dans les pays en voie de développement ou les pays émergents dans lesquels il y a une différence de qualité. Pas sur la sécurité d'un point de vue bactériologique, hein, puisque toutes ces eaux sont traitées quand elles sont distribuées, mais sur d'autres paramètres, en particulier paramètres gustatifs, de goût, d'odeur, sur lesquels il y a eu beaucoup d'investissements de fait et beaucoup d'innovations pour améliorer ces paramètres.
Alors comment travaillez-vous, Bertrand Camus, directeur général de Suez, pour rester ainsi, pour que cette qualité de l'eau soit toujours la même, pour améliorer la qualité de l'eau? Comment vous faites?
Alors il y a beaucoup de recherches et d'innovations au sein d'un groupe comme Suez, hein, toujours essayer de franchir de nouvelles barrières en termes de qualité d'eau. Donc pour donner un exemple concret, hein, nous avons beaucoup travaillé sur la décarbonatation, donc c'est enlever le calcaire de l'eau qui est livré au domicile des habitants. Alors c'est quelque chose qui a été mis en place dans l'ouest parisien. Ça a un double avantage. Le premier, c'est que vous n'avez plus à acheter des produits pour enlever le calcaire. Enfin, vous connaissez tous la difficulté d'avoir du calcaire. Donc ça vous fait une eau en plus de meilleure qualité gustative.
Donc,
et il y a une économie parce qu'en fait, une eau calcaire est beaucoup plus difficile à chauffer. Donc vous consommez plus d'énergie, donc ça a aussi un impact sur les émissions de CO2. Et tout compris, ça donne à peu près une économie au niveau d'un foyer de 150 euros par an.
Quand même.
Par rapport à une facture moyenne
uniquement
de 400.
Uniquement en enlevant le carbone.
En enlevant le calcaire.
Le calcaire, oui, pardon. Voilà,
par rapport à une facture moyenne de 400 euros par ménage. Donc vous voyez, on peut faire de la qualité en ayant en même temps un impact positif sur le pouvoir d'achat.
Vous avez parlé du goût plusieurs fois depuis le début de cette émission, Bertrand Camus, directeur général de Suez. C'est quoi le goût de l'eau en France? Qu'est-ce qu'on accepte comme goût? Alors, il faut justement qu'elle n'en ait pas du tout.
Alors le goût, d'abord, c'est régional. Hein, parce que vous avez, en gros, deux tiers des eaux utilisées sont souterraines. Un tiers, c'est de l'eau de rivière qui est ensuite traitée. Et en fonction des éléments que vous avez dans le sol, le goût est très différent. Moi, j'ai eu une semaine l'occasion de passer en Guyane. Donc ça fait partie de notre pays, à Brest, à Dunkerque et à Biarritz. Et en fait, il n'y avait aucune des eaux qui avait le même goût, parce que la qualité de la ressource est différente, et on peut percevoir ces différences de goût quand on fait un petit peu attention. Et donc tout le travail, c'est essayer d'éliminer les excès. Voilà, si vous avez du calcaire, il faut l'éliminer.
Donc d'ici à combien d'années, on pourra avoir le même goût partout sur le territoire national, qu'on soit à Kourou, à Cayenne ou à Brest?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille le même goût partout, hein, parce qu'en plus de ça, chacun est habitué à son eau. Et...
Mais il y a des goûteurs, pardon, c'est très naïf, mais il y a des personnes qui goûtent l'eau?
Tout à fait. Il y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur la base de réactifs chimiques, etc. Et nous avons des panels de dégustation
qui
associent notamment des clients et qui viennent goûter l'eau à l'aveugle et qui essaient de nous faire ressortir quelles sont les imperfections, ce qu'ils n'aiment pas dans ce goût de l'eau. Et après, il faut travailler sur les processus de traitement pour éliminer ces goûts.
Tout à l'heure, Elisabeth le disait, l'eau est rare, il n'y en a pas partout dans le monde, ça j'apprends rien à personne. Est-ce que nous, on pourrait en manquer aussi en France de cette eau potable?
Alors, sur le territoire national, vous avez des études très bien faites sur l'impact du changement climatique. Il y a quelques zones qui sont à risque, en particulier tout ce qui est le bassin Adour-Garonne. En fait, c'est lié au fait que c'est alimenté par les neiges des Pyrénées. Et en fait, les Pyrénées ne sont pas suffisamment hautes pour pouvoir continuer à stocker la pluie sous forme de neige. Et donc, quand on regarde les prévisions à 20 ans, 30 ans, ce bassin pourrait avoir des problèmes effectivement d'alimentation en eau, des conflits d'usage entre agriculture, industrie et domestique. Il y a aussi le fait que si vous avez moins d'eau dans les rivières, et bien du coup, les pollutions sont moins facilement absorbables. Vous avez aussi des phénomènes de réchauffement qui peuvent faire apparaître d'autres maladies type moustiques. Voilà, donc il y a effectivement un bouleversement qui est devant nous dans certaines des régions.
Donc il faut très vite trouver des solutions pour réduire nos consommations.
Il faut prendre des mesures et investir pour pouvoir faire face à cette situation.
Bertrand Camus, vous êtes le directeur général de Suez. Vous êtes notre grand témoin du jour dans La France Bouge. Et vous restez avec nous.
Europe 1. Et il est 13h17.
Imaginez une douche que l'on programme pour qu'elle soit exactement à la bonne température. Comme ça, aucun gaspillage d'eau.
Pas de gaspillage, c'est presque un peu une image du rêve quand même tout ça. C'est Inman qui le fait, c'est une start-up strasbourgeoise. On découvre tout ça dans un instant. Et bien sûr, quelle bouche est de France, hein, et vous l'avez entendu si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On peut faire de grosses économies en continuant d'enlever par exemple le calcaire. Et on va continuer à parler de tout cela pour voir comment on peut faire des économies pour moins gaspiller l'eau. On parle de tout cela notamment avec notre grand témoin du jour, Bertrand Camus, qui est le directeur général de Suez.
Et on s'est tous retrouvés pendant plusieurs secondes, voire minutes, à régler la température
de l'eau.
C'est atroce,
surtout le matin quand il fait froid.
Surtout quand il fait très froid, jusqu'à ce qu'elle nous convienne et que l'on puisse enfin se doucher. On a tous connu ça. Le volume moyen d'une douche classique, c'est entre 80 et 100 litres en France, c'est-à-dire ça dure environ 9 minutes. Avec la solution qu'on va vous présenter, c'est moins de 40 litres, toujours pour le même temps. Bonjour Gilles Chantelot.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Inman. Inman commercialise la solution dont vous allez nous parler qui s'appelle InSense. Ça fait 4 ans que vous avez trouvé la solution pour que l'on ait enfin de l'eau chaude instantanément sous la douche ou alors pour faire la vaisselle sans gaspiller de l'eau à bonne température.
Ben c'est cela. En fait, nous, on est parti de ce constat assez incroyable qu'au XXIe siècle, on n'ait pas la capacité d'avoir de l'eau chaude directement à nos robinets, alors qu'on la capacité d'avoir n'importe quelle information à n'importe quelle seconde à l'autre bout du monde. On a tenté donc de résoudre cette problématique et on a réussi. Et on s'est rendu compte aussi que sur le marché, il existait peu de solutions et même pas de solutions en fait qui pouvaient résoudre ce problème.
Vous êtes pionnier là-dedans.
Voilà, on est pionnier et on a breveté ce système.
Alors expliquez-nous concrètement comment vous y êtes arrivé, parce que je crois qu'il a fallu 4 ans, comme le disait Elisabeth, pour trouver la solution.
Alors au démarrage, en fait, on y est arrivé de manière technique. On a un petit peu comme toutes les startups, on a commencé dans notre garage à bricoler quelque chose, mais après on est monté un peu en puissance en adaptant, en implémentant de l'électronique aussi dans notre dispositif. pour automatiser justement cette bonne pratique. Et on a conçu ce système qui est à la fois de l'intelligence hydraulique et de l'intelligence électronique.
Et ce qui est marrant, c'est que tout ça peut aussi se télécommander depuis, par exemple, son téléphone portable. On est encore dans son lit, on se dit « je veux mon eau à 38 degrés » et bing, j'arrive sous la douche
c'est
à la
chaud.
Pro... Non, c'est pas mal, moi je mets ça, même plutôt vers 40. Et attendez, sérieusement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc dès la première goutte, c'est de l'eau chaude qui sort.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a développé l'interface connectée de notre système, qui est maintenant pilotable à distance via des interfaces tierces, comme un téléphone portable ou un PC, qui est implémentable aussi dans des scénarios domotiques, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire que vous pouvez programmer votre scénario. Et à distance, vous allez pouvoir implémenter votre profil et votre température
mais
préférée.
Mais du coup, il faut changer. Le mitigeur fait partie de la solution. C'est pas avec mon robinet que j'ai à la maison. C'est toute la solution est globale.
C'est ça. La solution est globale. C'est un mitigeur complet. Un mitigeur intelligent donc qui va permettre de gérer les températures, les débits et tout ce que fait aujourd'hui un robinet mécanique, mais en beaucoup mieux.
En revanche, quand on a vu le prix avec Elisabeth, on ne se trompe pas, parce que j'ai parfois tendance à rajouter des zéros. 3 590 € TTC, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Alors, c'est pour qui? C'est pour nous ou c'est pour des professionnels?
Alors, ça s'adresse à tous, dans l'usage domestique, mais dans l'usage hôtelier aussi. Alors nous, plutôt que cher, on préfère dire que ça a de la valeur. Une valeur déjà parce que notre système, il est fabriqué 100% en France, c'est des produits en France. On a fait ce choix industriel assez fort et qu'il apporte quand même des fonctions très, très importantes qui n'existent pas sur le marché et aussi une notion de retour sur investissement assez importante.
Bertrand Camus, je rappelle que vous êtes le directeur général de Suez. On ne le dit pas assez souvent, mais vous êtes le leader mondial de l'eau potable à travers la planète et vous êtes bien évidemment un leader français. On l'entend, ça se sont des solutions techniques pour consommer moins d'eau à la maison. Vous vous appuyez sur ce genre de technologie, vous en pensez quoi?
Je trouve ça génial parce que c'est vraiment un des enjeux que nous avons, c'est de réduire la consommation spécifique que chaque individu utilise. Peut-être pour remettre dans le contexte, l'eau dans la ressource, elle est utilisée à 70% pour l'agriculture, 20% pour les industries et 10% dans la ville. Mais ce 10%, en fait, comme c'est de l'eau potable disponible 24/24, en fait, elle coûte cher à produire. Et donc, plus on arrive à baisser la consommation spécifique, plus on arrive à faire des économies. Ce que je souhaite dire, c'est qu'en fait, dans la consommation d'un ménage, on a réussi à baisser de 20 litres en 20 ans. On était à 190 litres par jour par habitant, on est à 170. En fait, 40%, c'est la douche. Donc, arriver à économiser, c'est très important en termes de volume. Et puis aussi, il y a la facture énergétique, parce qu'en fait, 80% de la consommation d'eau au domicile et donc quasiment toute l'eau de la douche est chauffée. Et donc, arriver à moins utiliser d'eau a aussi un impact positif sur la consommation
Alors
énergétique.
Alors là-dessus, vous cherchez à innover justement pour qu'on réduise cette consommation d'eau ou qu'on l'utilise mieux?
Ah oui, donc nous faisons partie d'une alliance qui a été créée avec Electrolux, Procter & Gamble, avec l'objectif d'arriver à 50 litres par jour par habitant.
Mais comment on va faire pour ça?
Donc, écoutez, moi je ne sais pas comment, et donc ce type d'innovation aide, mais j'ai juste pris une image. Les Romains avaient 1000 litres par jour par habitant à l'époque de Rome. Aujourd'hui, ils en ont 200 litres par jour par habitant.
Et
je
ne
pense pas qu'ils soient plus malheureux que les Romains. Donc,
est-ce que l'une des premières solutions, ce ne serait pas déjà d'avoir à la maison des systèmes qui nous permettent de savoir combien on consomme par jour? Parce qu'on s'en rendrait tout de suite plus compte.
Si,
typiquement, tous les chiffres que l'un et l'autre vous donnent.
Ou des couleurs.
Moi, je l'ai appris.
Vous avez effectivement la capacité de mesurer, mais aussi beaucoup de réutilisations que vous pouvez avoir dans votre domicile. Par exemple, vous avez un système au Danemark, l'eau que vous utilisez pour vous laver les mains, vous pouvez la mettre dans votre chasse d'eau. Et la chasse d'eau, c'est 20% de la consommation du domicile. Donc la capacité à réutiliser au sein des domiciles est importante. Et puis là aussi, aspect énergétique, quand l'eau est chaude, il peut y avoir des échangeurs de chaleur et donc diminuer votre facture énergétique.
Gilles Chantelot, cofondateur de Inman, donc ce qui commercialise InSense, votre mitigeur électronique qui nous permet d'économiser de l'eau. Comment on fait si on a un particulier, qu'on a un énorme pouvoir d'achat, qu'on a envie de... on se dit, tiens, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a un système d'abonnement? Parce que c'est quand même un énorme budget, plus de 3 500 €. Est-ce que vous avez des propositions de paiement?
Alors, vous avez la possibilité de commander en fait, directement InSense sur notre site internet, inman.fr, donc inman.fr. Et on est en train de travailler en fait avec l'ensemble de nos partenaires qui sont à la fois issus du domaine sanitaire pur, donc qui sont des designers de salles de bain, mais aussi des designers de maisons intelligentes.
Ça pourrait être intégré quand on achète par exemple une salle de bain.
C'est ça.
Dans un package de salle de bain, par exemple.
Ça peut être tout à fait. D'ailleurs, ça s'inscrit complètement dans cette dynamique. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça fait partie du projet global de la salle de bain.
Merci, voilà. Merci à vous, Gilles Chantelot. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Inman, qui commercialise donc ce mitigeur intelligent InSense.
Et Bertrand Camus, le directeur général de Suez, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, il est 13h27. À suivre la saga. On va vous emmener dans les égouts de Paris, 2600 km de conduits souterrains destinés à collecter et à évacuer les eaux de pluie ainsi que les eaux usées.
Et là aussi, la logique était de pouvoir mieux consommer l'eau à l'époque, et c'est le baron Haussmann en 1850 qui l'a inventé. Ce sera notre saga du jour. Et bien sûr, quelle bouche cette France, et comme chaque jour, on est vraiment très heureux de vous accueillir à la table de la France Bouche avec Elisabeth et notre grand témoin du jour, Bertrand Camus, qui est le directeur général de Suez. Suez qui est le leader mondial de l'eau potable. Alors on va se recentrer une fois de plus sur la France, on va être un peu égoïste, on va penser à nous. Est-ce que le prix de l'eau va baisser ou augmenter dans les années à venir? Parce qu'avec tout ce que vous faites pour qu'on gaspille moins, tous les investissements que vous faites, ça, c'est nous qui allons payer?
Alors, sur l'évolution au cours des 10 dernières années, le prix de l'eau, il est flat. Hein. C'est 3,60 € du mètre cube, tout compris, taxes comprises, pour l'eau et l'assainissement. D'ailleurs, c'est la mise en place de l'assainissement dans les années 90-2000 qui avait fait monter le prix. Depuis, il est stable, en dépit du fait que les volumes baissent. Donc ça veut dire qu'il y a des économies qui sont faites grâce à l'innovation et à la technologie. Par contre, quand on se projette devant, il y a un déficit d'investissement aujourd'hui. On a besoin d'investir pour pouvoir faire face aux conséquences du changement climatique. J'en ai parlé précédemment, par exemple dans le bassin Adour-Garonne. On estime qu'en fait, en France, on investit 6,5 milliards dans les réseaux d'eau, les usines d'eau, les usines d'assainissement, les réseaux d'assainissement. Il faudrait quasiment être à 8 à 10 milliards pour pouvoir améliorer les technologies de traitement. Mieux préserver la ressource, hein, parce que moins d'eau dans les rivières, ça veut dire qu'il faut mieux traiter les eaux usées, et donc il va falloir investir. Alors après, est-ce que c'est dans le prix de l'eau, est-ce que c'est de la subvention?
Lorsque vous nous dites quand même, on va devoir payer un petit peu plus cher. Ou en
tout cas, il va falloir mettre des ressources pour pouvoir faire face aux conséquences du changement climatique.
Alors vous parlez des eaux usées, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, hein, dans lesquels on décèle toujours le Covid, la pandémie. Qu'en est-il en ce moment?
Alors c'est notre laboratoire de recherche a participé à élaborer la technologie pour pouvoir détecter les traces de virus. Et en fait, on a observé, ça a été mis en place au cours de l'été, et on a pu observer dès fin juillet, début août, une remontée assez importante de la trace du virus dans les eaux usées. Depuis quelques semaines, c'est à peu près stable en fait. Hein, donc l'épidémie a l'air d'être à peu près stabilisée. Et en fait, il y a un décalage entre la circulation du virus et les hospitalisations. C'est ce que l'on est en train de voir.
C'est-à-dire ? Un décalage de combien ?
Il y a à peu près entre une à deux semaines, quand on voit l'augmentation de la présence du virus et l'augmentation des hospitalisations, il y a à peu près trois semaines avant d'arriver à un pic. Donc c'est un marqueur qui est tout à fait intéressant. Et on a aussi à développer des technologies de détection là, il y a quelques semaines qui permettent même de reconnaître les variants qui sont présents dans les eaux usées. Donc c'est un marqueur très intéressant pour servir de système d'alerte.
Typiquement, vous avez vu à Paris, par exemple, l'explosion du variant anglais ?
À Paris, nous on l'a mis en place à Barcelone, on l'a sur certaines stations d'épuration comme à Dunkerque, et là on a pu observer la présence du variant anglais.
Donc si vous dites que c'est stable en ce moment, ça veut dire que d'ici deux semaines, on peut espérer une stabilisation ?
Ben écoutez, on va voir comment ça bouge hein, dans les jours et les semaines qui viennent.
On a aussi beaucoup parlé du marché des bouteilles d'eau hein, qui se porte bien. Le patron de Cristaline était là il y a quelques temps, il nous disait qu'il faisait une année record pour ce qui était vendu à la maison. Est-ce que vous le voyez vous aussi, que grâce au télétravail, on consomme plus d'eau parce que on est peut-être plus à la maison, on boit plus dans la journée.
En fait, quand on regarde le bilan de l'année 2020, on est stable, quasiment stable au niveau national. On doit être à moins 1% de consommation par rapport à l'année 2019. C'est à peu près équivalent sur l'ensemble de la France, sauf sur les zones touristiques. En fait, on est à moins 4, moins 5% sur l'arc méditerranéen, où nous avons une présence assez forte. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on ne consomme pas plus, pas moins. C'est stable sur l'année 2020.
Donc il n'y a pas eu forcément des Parisiens qui sont partis ou voilà, il n'y a pas eu l'exode massif. Ça ne se traduit pas dans la consommation d'eau du robinet en tout cas.
Nous on est acteurs dans beaucoup de territoires, mais on voit une grande stabilité dans les consommations, et c'est vraiment dans les zones touristiques où il y a l'impact le plus important.
Vous êtes aussi un des leaders de la gestion des déchets. Alors on ne le sait pas toujours, mais les déchets c'est un des indicateurs économiques que l'on regarde, puisque généralement plus il y en a, plus ça veut dire que le pays tourne. On tourne en ce moment ?
Alors, on a vécu deux épisodes très différents. Le premier confinement, qui a été un arrêt total de l'économie. Moi, j'ai été voir les équipes où tout était fermé. Il n'y avait plus que les stations d'épuration, les supermarchés, les hôpitaux qui fonctionnaient. D'ailleurs, on s'occupe aussi du traitement des déchets hospitaliers. Et là, on avait des baisses de volume de l'ordre de 70% année à année comparée. Dans la deuxième phase de confinement, depuis la fin de l'année et maintenant la troisième, on tourne à moins 5, moins 10%. Donc ça, c'est quelque chose que l'on arrive à gérer. Et en fait, un facteur très important dans l'activité économique, c'est tout ce qui est bâtiments et travaux publics. Et à partir du moment où ça continue à fonctionner, on est à peu près à ces niveaux de baisse d'activité.
Alors, la demande en eau va augmenter de plus en plus, on le sait. Je crois qu'elle va augmenter de 50% à l'horizon 2030. Donc 2030, c'est demain. On l'a dit, l'eau, c'est rare, c'est un bien précieux. Que mettez-vous en œuvre, Bertrand Camus, directeur général de Suez, pour protéger cet environnement? Je crois que vous avez un programme qui traite les microplastiques justement dans les eaux usées.
Alors, on a beaucoup parlé d'eau potable, mais un des enjeux fondamentaux, c'est celui des eaux usées, de façon à pouvoir avoir une protection de la ressource. Donc, impact du changement climatique, ça veut dire moins d'eau dans les rivières. La Seine, à horizon 2030-2040, c'est deux fois moins d'eau en été. Et donc, il faut traiter deux fois mieux les eaux usées. Sinon, vous aurez un retour des pollutions et par exemple, la disparition des poissons qui sont enfin revenus. Donc, il faut améliorer la qualité de traitement. D'ailleurs, la baignade en Seine, qui paraissait un peu comme une idée un peu farfelue, en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire en termes de technologie.
On n'y est pas encore,
pour
quand même.
Pouvoir... Oh, on n'est pas loin. C'est quand il pleut, en fait, que ça déborde. Mais en temps sec... Ça fonctionne, mais ce qu'il faut faire en termes d'infrastructure et de traitement est exactement la même chose pour mieux protéger la ressource. Donc ça, c'est vraiment un champ de façon à ce que la ressource soit protégée. Et puis après, il y a toutes les innovations et les recherches qu'on fait dans la réutilisation des eaux usées. Comme il faut traiter de mieux en mieux les effluents, on peut leur donner une deuxième vie pour des usages agricoles, pour des usages industriels. Et puis, il y a d'autres technologies que nous regardons. C'est aussi la recharge des nappes. Aujourd'hui, comme on pompe dans les nappes pour produire de l'eau, être capable d'accélérer la recharge et l'infiltration pour pouvoir créer des réserves d'eau à utiliser. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours pour pouvoir faire face à ce défi du changement climatique.
Chaque jour dans La France Bouge, Bertrand Camus, on découvre l'histoire d'une marque ou d'un endroit ou d'un savoir-faire qui ont traversé des générations, qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, nous allons écouter, si vous voulez bien, le récit de l'histoire des égouts de Paris, 2600 km sous la ville de Paris, créée en 1850.
Oui, ils étaient destinés à améliorer l'hygiène à l'époque où l'épidémie de choléra sévissait. Les égouts de Paris, c'est notre saga du jour, racontée aujourd'hui par notre égouttière en chef, Dora Nana.
Europe 1, la France bouge, la saga.
À quelques mètres sous nos pieds, c'est une sorte de ville sous la ville, un véritable labyrinthe de galeries où l'on se repère exactement comme en surface grâce aux plaques de rue. Un dédale de près de 2700 km de souterrain, autant que les rues de Paris. Ce qui est fou, c'est qu'il y a encore à peine 200 ans, les égouts n'existaient toujours pas. Nos eaux sales étaient déversées directement dans les rues et on commence à construire les premiers égouts à ciel ouvert à la fin du règne de Louis XVI. Mais ce n'est qu'en 1850, sous Napoléon III et sous l'impulsion du préfet Haussmann, que les égouts parisiens tels qu'on les connaît actuellement sont créés. Anastasia Poli-Baudreau, chargée de projet de rénovation du musée des égouts.
À la fin du règne de Louis XVI, on avait 26 km d'égouts. Petit à petit, notamment avec l'épidémie de choléra de 1832 qui a fait 18 000 victimes, les grands travaux se sont imposés. Et sous Napoléon III, le préfet Haussmann s'est attaqué au double problème de l'adduction en eau et de l'évacuation de ces eaux usées.
Une politique de grands travaux va alors s'engager. On passe de 160 km en 1855 à 1000 en 50 ans. Les égouts vont recueillir en plus des eaux pluviales les eaux usées. En 1894, le tout à l'égout est créé. Les immeubles sont raccordés au réseau des égouts et plus aucune eau souillée n'est déversée ni dans la rue ni dans la Seine. Et l'une des particularités de notre système, c'est que nos égouts abritent, en plus des canalisations, toutes sortes de câbles.
En dehors de l'eau non potable et de l'eau potable, on fait aussi passer les réseaux de télécommunications, la fibre optique, le chauffage urbain. Donc, c'est une ville sous la ville, un réseau assez fourni.
Des canalisations et des câbles, mais aussi toute une faune qui coexiste, des rats d'égout, des blattes, des araignées, une variété naine de sauterelles. Et selon la légende, on y aurait même trouvé dans les années 80 un crocodile. Autre particularité, nos égouts se visitent depuis 1867 en barque, en locomotive ou à pied selon les époques. Une manière insolite de découvrir Paris via ses entrailles et de mieux connaître entre autres les différents métiers qui y travaillent.
On y présente le travail des égouttiers, qui a un métier mythique, qui a une histoire assez riche. Dans l'ombre aussi travaillent beaucoup d'autres corps de métier. Vous avez par exemple des menuisiers qui travaillaient sur tous nos engins de curage. On a des tas de corps de métier hyper intéressants qui sont aussi un peu mis à l'honneur dans le cadre du parcours de visite.
Le musée des égouts rouvrira ses portes en principe cet été. Chaque année, près de 80 000 personnes le visitent. Une bonne façon d'apprendre aussi qu'on innove grâce à nos égouts. Depuis quelques années, la ville de Paris expérimente la récupération de chaleur dans nos égouts en recyclant les eaux usées pour chauffer des écoles, une piscine et même une mairie.
C'était la saga du jour racontée par Dora Nana de l'équipe de la France Bouge. Alors Bertrand Camus, on est quand même bien obligé d'en parler parce que Dieu sait que vous faites la une des journaux avec cette affaire avec Veolia, hein, votre grand concurrent, lui-même un des leaders mondiaux du secteur qui veut vous racheter. Ça fait 7 mois qu'on y est. Il n'y a jamais eu une telle bataille entre deux aussi grandes entreprises en France. On n'a jamais échangé autant de jolis petits mots entre deux grands patrons en France. Hier, pour la première fois, vous avez dit « D'accord, mais voilà nos conditions à une offre de rachat. Grosso modo, vous ne nous rachetez pas intégralement, vous nous laissez ce qu'on veut et puis vous prenez le reste. » Veolia vous a dit « Non. Est-ce que vous êtes prêt à revoir votre proposition ?»
Bon, attendez, on va déjà laisser les choses se reposer un peu. Parce que
là, c'est clair, ils ont dit non.
Écoutez, je trouve qu'une proposition qui était quand même plutôt constructive de la part de Suez, hein, qui représente un effort, qu'elle soit balayée d'un revers de la main en une heure, on trouvait ça un peu
étonnant. Vous avez fait régulièrement la même chose avec les offres de Veolia.
Non, mais c'est parce que c'était pas vraiment une avancée. Mais je pense que là, il faut prendre un petit peu de recul. Enfin, on vient de parler des enjeux liés à l'eau, à l'assainissement, à la vie de nos concitoyens. Ce sont des services essentiels dans un moment très compliqué avec la crise Covid, la crise économique qui va être autour de ça. Et on a la chance d'avoir deux grands groupes qui sont sur des secteurs porteurs, avec des projets industriels très différents, et c'est ce qui fait justement la richesse. Si ces deux grands groupes sont arrivés à ce qu'ils sont, c'est grâce à la rivalité que nous avons toujours eue, la concurrence, qui nous pousse à innover, qui nous pousse à nous différencier. Et donc c'est ce que nous défendons, trouver un moyen d'un compromis qui permette d'avoir effectivement deux groupes qui continuent, certainement l'un un peu plus gros, l'autre un peu plus petit, mais je pense que ça serait préférable pour tout le monde.
Bertrand Camus, vous êtes le directeur général de Suez. Je vous propose maintenant de vous positionner en coach, non pas en coach sur l'eau, mais en coach pour donner votre avis sur justement un projet d'entreprise.
Europe 1. Et il est 13h41. Et
le pitch du jour, c'est Green Mum Box.
Oui, vous êtes enceinte, vous avez une amie qui attend un enfant. Alors allez, tendez l'oreille parce qu'on a trouvé quelque chose de sympa pour vous. Et oui, la France bouge avec ce moment fort de notre émission. C'est le moment de découvrir le pitch sous l'œil de Bertrand Camus, le directeur général de Suez, et puis Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie est déjà là pour vous écouter et pour tout à l'heure donner ses conseils.
Et oui, parce qu'on vous le montre chaque jour dans la France bouge, des personnes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que la crise donne des idées et puis la crise permet d'y aller. Hein. On y va, on fonce comme vous. Il y a 3 mois à peine, Gaëlle Pagé. Bonjour.
Bonjour, bonjour
vous
à
avez,
tous.
Vous avez 32 ans, vous êtes lyonnaise et vous êtes la fondatrice de Green Mum Box. Ce sont des petites boîtes en carton, là on en a une en direct si vous nous suivez sur europe1.fr. C'est une boîte en carton, un peu comme une boîte à chaussures. Elles sont pensées pour les futures mamans avec des tas de petits produits, entre 4 et 6 produits. L'idée est née pendant votre grossesse, vous allez nous raconter la suite. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Alors Green Mum Box est la première box française pour les femmes enceintes qui s'adapte à leurs besoins. C'est-à-dire qu'on va allier une routine in and out. Donc on va d'abord venir prendre soin de la future maman et du bébé par l'intérieur, donc par le biais des compléments alimentaires, d'infusions et de snacks healthy et plein de bons nutriments. Également par l'extérieur, donc c'est-à-dire prendre soin de la peau et des cheveux par le biais de cosmétiques et d'accessoires zéro déchet. Donc il faut savoir que tous les produits ont été sélectionnés par une sage-femme, enfin avec l'aide d'une sage-femme et d'une naturopathe, et que l'intégralité des produits de Green Mum Box est 100% français, naturel et pour la majorité bio. Donc Green Mum Box, comment ça fonctionne? Eh bien tout d'abord, il faut se rendre sur le site www.greenmumbox.com. Il existe 3 gammes différentes pour s'adapter à différents budgets. Donc qui va de 39,90€ à 59,90€. Et on a le choix de s'abonner à la box, donc qui démarre au 3e mois de grossesse jusqu'au 9e mois de grossesse, ou de l'acheter à l'unité si on souhaite l'offrir.
Eh bien voilà, déjà bravo, je dois vous féliciter parce que je crois que vous êtes la première depuis des mois à penser à nous dire combien ça coûte, puisqu'à chaque fois c'est mon boulot, donc je suis très heureux de vous passer le bâton du boulot. Bravo en tout cas.
Merci Gaëlle, merci pour votre pitch pour Green Mum Box. Gaëlle, je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Gaëlle, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Nathalie Carré, elle analyse les candidatures, elle analyse les entreprises, les futurs projets. Quelles sont les forces et les faiblesses de Green Mum Box, Nathalie?
Alors déjà, 3 points positifs. On adore les box en France. On a à peu près 1 million d'abonnés à l'une à peu près des 400 box.
Donc gros marché.
Gros marché et en plus, celles qui achètent, ce sont à 76% des femmes entre 25 et 34 ans, donc pile poil votre clientèle. Deuxième point fort, c'est la liberté que vous proposez dans vos abonnements, que ce soit sur le prix ou sur la durée. Et puis la diversité des produits avec le côté prendre soin par l'intérieur et l'extérieur. Je mettrais 2 points améliorés. sur votre box, il manque des images du contenu de votre box. Là, on a besoin d'acheter à l'aveugle. Ça peut freiner des internautes. Et puis, deuxième point, il y a plusieurs box qui sont mis sur le côté green, comme votre marque, alors que vous avez besoin de vous différencier parce que vous démarrez. Or, vous avez votre naturopathe et vous avez votre côté intérieur-extérieur de votre offre. Et ça, ça vous donne une vraie différence. C'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant, cet aspect-là et la naturopathe, parce que quand on démarre, c'est vraiment important d'être différent des autres pour trouver sa place sur le marché.
Alors, c'est vachement intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Les photos, pourquoi il n'y en a pas assez?
Alors, tout simplement parce que l'entreprise a démarré en fait au mois de janvier.
Ouais, ça fait à peine 3 mois.
Le site a ouvert au mois de janvier, donc, mais tout à fait, je vous remercie pour votre analyse et votre remarque, puisqu'on est en train de justement faire des shootings sur la box pour les insérer sur le site internet.
Mois de janvier, mais déjà 70 box de vendus. Hein.
Oui,
c'est bien,
tout à fait.
Bravo,
oui.
Félicitations.
Merci. Alors, vous avez besoin de quoi justement maintenant? Plus de clients, parce qu'Elisabeth le dit, ça part, mais il en faut encore plus. Plus de visibilité.
Exactement.
Et puis peut-être un peu de sous.
Tout à fait. Alors, sur le plan financier, on est en train d'établir tout ça avec l'expert comptable et une directrice financière qui m'aide à monter également ce projet.
Mais vous aurez besoin sûrement un peu d'argent après. Bertrand Camus, vous êtes le directeur général de Suez. Avec votre œil d'entrepreneur, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ?
Écoutez, je ne suis pas compétent sur le sujet, mais ce que j'aime beaucoup, c'est... moi, j'ai une conviction très, très, très forte qui est qu'il faut changer nos modes de consommation, nos modes de vie pour arriver à relever le défi du changement climatique, de la transition environnementale. Et tout ce qui va dans le sens de se faire du bien à l'extérieur, à l'intérieur, dans ce cas spécifique pour une grossesse, à mon avis, va dans cette direction et est totalement aligné avec cette conviction. Donc, bonne chance.
Moi, j'avais une petite remarque, c'est-à-dire qu'il y a tout pour la maman. Il n'y a rien pour le papa. Je sais pas, on ne peut pas rajouter un petit truc sympa pour le papa.
Il voulait un chocolat.
Alors, en effet, on peut faire mieux que ça, puisqu'on est en train de travailler sur une box spécialement pour le papa. Alors, peut-être pas en abonnement.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, à part des chocolats et...
Eh bien,
des
par
trucs
exemple,
pour expliquer comment l'enfant arrive, un livre,
exactement,
machin, comment
fait.
On prend soin de notre femme,
parce
ou des choses comme ça.
C'est vrai que le papa est quand même plutôt extérieur, on va dire, et forcément, il ne le vit pas de l'intérieur, donc en effet...
Ce ne sera que out, alors ce ne sera pas in and
out. Eh bien, exactement.
Vous mettez un réveil pour s'entraîner au réveil au milieu de la nuit,
oui,
après la naissance, voilà, pour donner le biberon, voilà, l'entraînement.
Ouais. Beaucoup de vitamines.
Très bonne idée. Un réveil et des vitamines. Ça s'appelle Green Mum Box. Merci à vous, Gaëlle Paget, d'être venue nous présenter votre projet. On vous souhaite... Bonne chance et surtout donnez-nous de vos nouvelles. On aime bien avoir des nouvelles après le passage dans la France Bouge.
Très bien, merci.
Et on dit merci également à Nathalie Carré que l'on aura beaucoup de joie à retrouver demain. Et si vous aussi, vous voulez venir présenter votre projet, une seule adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et comme ça, vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Bertrand Camus, vous êtes le directeur général de Suez, témoin du jour dans la France Bouge. Je vous demanderai de rester encore un petit peu avec nous pour la suite et la fin de notre émission.
Europe 1,
13h50.
À suivre demain au travail, comment améliorer le management grâce à l'intelligence artificielle?
Elle est belle cette question, hein? Eh bien, réponse dans un instant. La France Bouge et nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, Bertrand Camus, qui est le directeur général de Suez. Et Suez, on ne le sait pas toujours, hein, c'est le leader mondial de l'eau potable en cette journée mondiale de l'eau.
Et c'est le moment de demain au travail parce que notre société change et nos entreprises aussi. Bonjour Valérie Benoît.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du développement des ressources humaines auprès du groupe Manutan. C'est un groupe familial qui a été créé en 1966 et vous distribuez donc des équipements de mobilier de bureaux pour les entreprises. Plus de 2000 salariés dans votre groupe. Vous êtes présent dans 17 pays d'Europe. Le siège est basé en Île-de-France et vous avez mis au point un projet pour que les collaborateurs partagent davantage entre eux, hein, qu'ils échangent davantage entre eux, notamment après des présentations ou après des événements. Pour cela, vous utilisez un outil. Cet outil s'appelle le Flash Brand. Racontez-nous cette solution.
Exactement. Alors effectivement, ça s'inscrivait dans un projet plus global, comme vous l'avez dit. On souhaitait que les gens, les collaborateurs partagent plus de feedback entre eux. C'est déjà ancré dans notre culture, mais on voulait que ça aille plus loin, qu'ils en fassent de meilleur, plus fréquemment, plus équilibré, c'est-à-dire en utilisant les feedbacks positifs aussi, pas que le feedback d'amélioration. Et puis avec plus de personnes. Donc naturellement, on le fait plus avec son manager, mais de le faire avec tous ses collègues de travail.
Alors pour qu'on comprenne bien, en quoi cette solution permet cela ?
Alors du coup, le feedback, ça peut se faire devant la machine à café, dans un couloir. Mais nous, on a souhaité compléter ça avec un outil donc qui s'appelle FlashBrand, où on peut partager des feedbacks, échanger des feedbacks. Donc c'est une application en fait, hein, que vous pouvez avoir sur votre portable ou votre votre PC, et vous pouvez échanger des feedbacks un peu comme on envoie un SMS. Donc vous pouvez dire bah tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ma réunion et de mon introduction notamment, et puis votre collègue vous répond ou vous envoie spontanément.
Mais pourquoi j'utiliserais davantage le FlashBrand que un SMS si j'ai envie de faire un retour à un collègue? Qu'est-ce qui ça de plus?
Alors du coup, les avantages, c'est que vous avez tous vos feedbacks au même endroit, au lieu d'en avoir un peu dans votre téléphone, dans votre tête ou dans votre ordinateur. Ils sont tous au même endroit, et puis surtout, c'est là où l'intérêt d'avoir un outil joue, c'est que vous pouvez avoir leur historique, vous pouvez voir vos évolutions, parce qu'on peut aussi donner des feedbacks suivant des critères en mettant des notations. Donc notamment pendant le Covid, on a donné ça comme outil aux managers pour qu'ils interrogent leurs équipes sur comment ils vivent le télétravail, comment ils reçoivent la communication d'entreprise.
C'est bien parce que ça permet d'avoir une synthèse sur le ressenti, le climat de l'entreprise, sans passer par le traditionnel entretien annuel, en gros.
Voilà, exactement. Donc, vous pouvez le faire quand vous voulez. Donc, les managers, nous, on leur a dit, ben, on vous invite à le faire tous les mois, par exemple, pour celui-là spécifiquement. Et comme ça, ils peuvent suivre l'évolution dans le temps. Ils ont la donnée collaborateur et puis individuellement de chacun où il en est. Et puis, l'outil permet, nous, on l'a pas encore déployé, mais de mettre ça en lien avec une plateforme d'e-learning, par exemple, ou un coach virtuel, en fonction des compétences sur lesquelles vous devez vous développer, par exemple, pour vous les travailler.
Bertrand Camus, vous êtes le directeur général de Suez. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de solution et qu'est-ce que vous mettez en place chez vous ?
Nous avons un groupe mondial, et même si notre sujet est global, l'application à chaque fois est locale. On ne fait pas le traitement d'eau de la même façon au Sénégal, au Chili ou à Dijon. Hein. Mais un des défis que nous avons, c'est le partage de connaissances, hein, les échanges entre les collaborateurs pour que ce soit fluide. Et donc nous avons aussi mis en place ce genre de plateforme de façon à pouvoir fluidifier les échanges et que chacun de nos collaborateurs puisse exprimer ses besoins et avoir accès aux compétences du groupe autant que besoin.
Valérie Benoît, est-ce que c'est pas non plus une façon d'avoir des traces de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise ? Pardon, hein, mais...
Non, mais c'est une très bonne question, parce que justement la spécificité qu'on a choisie chez Manutan et puis FlashBrand est vraiment orientée comme nous, c'est que les feedbacks sont accessibles uniquement aux collaborateurs. C'est-à-dire que son manager ne les voit pas,
d'accord.
La RH ne les voit pas,
mais
il peut les partager s'il le souhaite.
Mais le manager a le droit de faire un feedback, comme vous dites,
à son
collaborateur, d'accord. Mais c'est toujours, c'est toujours entre deux personnes, c'est pas un groupe.
Alors après, si vous avez une grosse réunion, vous êtes animateur d'une grosse réunion, vous pouvez faire une demande de feedback à tous les participants et du coup collecter les feedbacks de l'ensemble des participants. Mm-hmm. Mais ça reste adressé à une personne.
Eh bien, merci beaucoup Valérie Benoît. Je rappelle que vous êtes la responsable du développement RH du groupe Manutan.
Et c'est la fin de votre émission. Merci à vous Bertrand Camus
merci.
D'être venu dans la France Bouge. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Suez et vous étiez là notamment à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Merci à vous. Merci.
Et demain, on change totalement de sujet puisqu'on s'intéressera au tissu. Le patron de Mondial Tissus sera notre invité.
Restez sur Europe 1 dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.